crois-là. Aujourd'hui, toi et moi, on fait des tortillas.
Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Le Goût du Monde, l'émission où l'on parle de ce que l'on mange, comment on le mange, de ce que cette nourriture dit de notre culture et du lien qu'elle crée entre nous les hommes. Aujourd'hui, dans nos marmites, nous avons une bien-aimée internationale, une céréale dorée, une identité dans un épi, le maïs bien sûr, une plante des civilisations mésoaméricaines, témoin du passé, ancrée dans le présent. Nous allons voir comment le maïs a voyagé, pourquoi le monde s'est épris de cet épi, comment le maïs est devenu l'emblème et le vecteur d'identité nationale au Mexique. Nous allons le déguster, évidemment, et le cuisiner avec nos trois invités. Bonjour à toutes.
Bonjour.
Trois
bonjour.
Femmes, donc la chef cuisinière Mercedes Ahumada. Bonjour Mercedes.
Bonjour.
Mexicaine, la cuisine évidemment de mère en fille et en grand-mère, puisque je crois que votre grand-mère déjà cuisinait beaucoup. Vous avez grandi dans cette atmosphère de cuisine.
C'est ça. Ma grand-mère, elle était cuisinière traditionnelle.
Et sur le terrain, à présent, à côté de la cuisine, nous avons dans les champs, on peut dire, dans les mille pas, Pauline Rameau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethno-écologue, chercheur associé au Musée de l'Homme à Paris et commissaire d'une très belle exposition consacrée évidemment au maïs qui se tient à Paris cet été. Françoise Aubel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, ethnobiologiste, chercheur au Musée national d'histoire naturelle et vous avez bien sûr étudié le parcours de cette plante.
Cette plante extraordinaire. Qui est arrivée extrêmement vite. En Europe, d'abord en Amérique du Nord aussi, et en Europe, et puis ensuite de là partout.
En Asie.
À peu près en même temps. Avant 1550, elle était partout, dans le monde entier.
Alors, les auditeurs, bien sûr, on mettra une photo sur le site du Goût du Monde. On a une superbe table avec plein d'ingrédients, plein de maïs, de différentes couleurs, tout plein de choses dont on va parler tout au long de cette émission. Mais déjà, on va revenir sur la première idée. On va parler de deux choses, Mexique et maïs. Je n'arrête pas de lire que les deux sont indissociables, que sans le maïs, il n'y a pas de Mexique et sans... est d'accord ?
Exactement. Le maïs est fondamental pour la culture de la population au Mexique. Ouais. Ouais. On vit tout autour du maïs, toutes nos traditions, notre culture, la gastronomie, la culture de la terre, les sentiments, tout est lié au maïs. Même pendant la vie, la mort et... C'est le Mexique.
C'est marrant parce que vous dites la vie, la mort, justement, à l'origine, le maïs était sacré. Comment est-ce qu'est né le maïs? Ou plutôt, comment certains imaginent que les hommes sont nés? Je crois que le maïs a son histoire liée à cette histoire-là. On m'a raconté des histoires de Maya.
Ça dépendra aussi de la région, mais dans certaines civilisations, on dit que les maïs étaient enfermés dans une pierre et qu'après les dieux avaient envoyé
un éclair, je crois,
pour éclater la pierre et pouvoir avoir comme si le maïs. Mais je pense que c'est plutôt une métaphore des origines du maïs, c'est-à-dire là, je laisserai parler les spécialistes, mais en parlant de Teotihuacan, c'est très dur et je pense que ça vient de là, les histoires qu'on peut trouver dans toutes les régions du Mexique.
C'est une plante qui est considérée comme fertile, symbole de fertilité en tout cas, qui est une plante qui a vraiment une place très particulière dans les céréales mondiales. Françoise.
Le maïs actuellement, évidemment, mais le maïs du temps de Colomb également, il était déjà très gros. Et bon, je compare avec les toutes petites plantes qu'on cultivait en Europe, le panique. Le Panicum miliaceum, c'est tout petit. Et ce sont des plantes qui versent. En plus de ça, le maïs, il se dresse. Donc, on ne perd rien. Et c'est pour ça qu'il a eu un succès absolument fou dans toutes les régions d'Europe, montagneuses notamment, où on pouvait cultiver mal le froment et on cultivait essentiellement du panique. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Toute l'Europe portugaise, française, italienne, même des Balkans, également, tout le monde a immédiatement pris le maïs comme leur céréale la plus importante.
Pauline Rameau, ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous l'avez dit Mercedes dès le début de cette émission, c'est pas simplement une plante en fait le maïs, c'est un art de vivre, c'est une philosophie et c'est une identité. Vous avez pu le vérifier vous sur le terrain, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi c'est une identité?
Alors moi, j'ai travaillé surtout sur sa culture et sa transformation. Donc en fait, l'aspect identitaire, je l'ai pas vraiment étudié en tant que chercheur, quoi. Mais finalement, ça fait partie du savoir-vivre mexicain, c'est-à-dire qu'il est présent partout, et que au-delà de ça, quand on parle de la milpa, du coup, qui est l'agro-écosystème à base de maïs, mais qui est une polyculture associée à d'autres plantes, notamment aux haricots. C'est pas juste une culture, en fait. Au-delà de ça, c'est une manière de faire communauté, c'est un vecteur identitaire, de cohésion, et bien au-delà d'une simple plante, quoi.
La milpa, on va revenir, bien sûr, parce que vous dites ça comme si c'était une évidence. La milpa, Mercedes. Bah,
la milpa, c'est la maison, en fait.
C'est ça qui est dingue, parce que c'est un procédé de culture, et c'est la maison.
Exactement, parce que tout est autour de la milpa. Et je parle beaucoup des régions parce que, par exemple, le milpa de la région de Jalisco, par exemple, il y a du maïs, mais c'est autour la milpa et il y avait des agaves. Ça dépendra de la région. Par exemple, la mienne, c'était le maïs, mais la courge, les haricots et le piment.
En quelques mots, Pauline Rameau, qu'est-ce que c'est que la milpa?
La milpa, du coup, souvent, on la décrit comme le maïs, la courge et le haricot, les trois sœurs. C'est une polyculture, une association de cultures. Mais comme le dit Mercedes, elle est différente selon la région. En fait, la milpa, ça peut être la plante de maïs, ça peut être la combinaison de plantes et ça peut être l'espace. Et elle est composée des éléments dont les gens ont besoin selon la région. Donc, selon la culture culinaire et les pratiques et les coutumes locales.
Oui, c'est ça qui est assez magique, parce qu'en fait, si je vous comprends bien, la milpa, c'est une sorte d'ancêtre de la permaculture. On plante et on sème avec des plantes qui vont donc accompagner, elles vont l'une protéger l'autre, la troisième hydrater la première, et donc on va avoir tout un système comme ça. Et c'est dans la cuisine que l'on retrouve un écho de cette milpa.
Exactement.
Et vous, chez vous, par exemple, Mercedes, la milpa autour de chez vous, on y plantait quoi et
Chez moi, à l'époque, il y avait le maïs dont on utilisait toute la plante. Et la plante de l'haricot montait. Ça permettait d'éliminer les mauvaises herbes. Et on avait aussi la courge. Et j'ai dit tout à l'heure que pour nous, la milpa, c'était notre maison parce que toute notre vie s'est déroulée autour de la milpa. C'est-à-dire, quand on parle de culture, il y a les fêtes qui commencent avec la culture qui continue pendant tout l'épisode de développement, exactement, et que ça finissait avec ce qu'on appelait la pisca, c'est-à-dire la récollection de tous ces éléments. Et en attendant, pendant toute cette période, tout ce qu'on faisait en cuisine, c'était autour de ces ingrédients, mais aussi, bon, il y avait aussi les animaux, que c'est très important, mais c'était comme une fête, parce que en fait, les gens partaient travailler, mais leurs femmes restaient à la maison. Mais quand je dis les femmes, je parle de une centaine des femmes qui restaient à la maison pour procurer tout ce que eux ils avaient besoin dans la milpa, en parlant d'espace. Et donc voilà, c'est à partir de là, et on commençait avec le maïs quand il était tendre, et autour de ça il y a beaucoup de plats. On accompagnait avec des fèves par exemple, les haricots, et les enfants jouaient à égrener les maïs. Mais en attendant, c'était un travail qu'on ne se rendait pas compte. Et après, les cuisinières commençaient à transformer et donc c'était une fête à la fin.
Et donc, tout au fil des saisons de la plante, en fait, on va manger différemment et on va adapter sa gastronomie en fonction de la milpa. Et avec comme place fondamentale le maïs, puisque dès le début, vous dites on mange le maïs tout jeune, il y a mille façons de manger ce maïs.
Exactement, parce que et le maïs, une seule épine, on peut la trouver tendre. Et sur ces grains, on peut faire beaucoup de recettes. Mais après, quand le maïs vient une masse, et l'autre, quand c'est tendre, devient une mazorca quand c'est dur, là, on a des autres plats à préparer. Mais en plus, et la base fondamentale, que c'est la pâte de maïs qu'on appelle masa. Et la masa, c'est nixtamal aussi.
Ah, alors là, ça y est. Avant d'y aller, justement, Pauline, vous êtes chercheuse, donc vous êtes arrivée au Mexique, vous avez étudié donc l'agriculture, donc ces fameuses milpas, sans partir à la base sur une idée, tiens, je vais observer le lien entre cuisine, justement, déclinaison en recettes de cette culture, et vous l'avez découvert au fil de vos recherches?
Au début, oui, j'ai commencé à travailler sur le système de la milpa et justement les causes de sa transformation et de sa disparition, entre guillemets. Et j'ai travaillé sur l'étymologie du mot milpa et sa transformation aussi. Et c'est par la suite, en reprenant les travaux d'une autre chercheuse, donc Renata Leal, qui a travaillé dans le Jalisco également, plus sur l'aspect agronomique, en essayant d'identifier la diversité des variétés existantes au sein d'une même municipalité. On a eu l'idée, du coup, avec Serge Bahuchet, de reprendre cette étude-là et d'aller au-delà, c'est-à-dire de dire, OK, aujourd'hui, on a identifié cette diversité de maïs au sein de cette même municipalité qui n'est pas une municipalité indigène. Donc, c'est des gens, des paysans lambda, desquels on ne parle pas réellement, finalement, surtout en ethnologie. Et arriver à se demander pourquoi cette diversité elle est conservée aujourd'hui, en posant l'hypothèse que c'est un peu facile finalement que cette diversité est conservée pour des raisons alimentaires. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur les usages du maïs, en étudiant avec les gens locaux les recettes et le lien entre chaque espèce et les plats et les coutumes locales.
Justement, quelle est la place du maïs dans cette gastronomie ?
Elle est omniprésente. Enfin, c'est-à-dire que le maïs, il est vraiment partout. Comme Mercedes le disait, on peut le manger et quand c'est le moment des elotes, donc du maïs tendre, c'est la fête. Vraiment, tout le monde attend les elotes. Il y a vraiment un attachement super fort à cette période.
Donc c'est tout début de la récolte en fait, les élotès, quand
non,
on les a.
Ça arrive au mois de septembre, octobre, sachant qu'on sème en juin. Donc septembre, octobre, on arrive à manger les premiers épis. Et après, on attend qu'il sèche. Donc en décembre, janvier, on récolte le maïs sec. Et de là, on peut le nixtamaliser, mais on peut aussi le moudre et le toaster. On peut le cuire tout simplement pour le pozole, par exemple, et les gros grains. Donc, selon la taille des grains et les variétés, on va choisir différentes recettes. Et le pozole, en l'occurrence, c'est on choisit un épi à gros grains pour arriver à faire une soupe de maïs.
Qui s'appelle cacahuacin.
Et qui a l'air très très bonne, parce que oui. J'ai vu des photos. Et on y met du porc, je crois, aussi.
Porc, poulet, il y a même fruits des mers. Mais bon, ça dépendra aussi de la région. Mais le plus connu, c'est le porc.
Et on retrouve donc au fil de la saison, ça on l'a dit. Mais on a une vision peut-être angélique de la chose, parce que le milpa, vous le disiez, est peut-être moins important aujourd'hui qu'il n'a pu l'être avant. On a quand même une grande production de maïs dans les plaines, j'imagine, une production industrielle. Alors que là, on a vraiment une préservation d'un savoir-faire, et ça c'est fondamental. La gastronomie, elle est fondamentale dans ce rôle-là, j'imagine.
Exactement, oui. C'est ce sur quoi on a travaillé. Moi, j'ai essayé de faire le parallèle vraiment entre le champ et l'assiette, et de voir quel était le lien entre les variétés qu'on trouve au sein d'une parcelle et ce qui est consommé au sein de la famille. Et du coup, d'étudier les stratégies à la fois de semail, les stratégies économiques et les recettes. Et aujourd'hui, évidemment, il y a énormément de cultures de rente avec le maïs hybride, donc qui occupe principalement les plaines, puisque c'est là où on peut arriver à mécaniser et donc à avoir plus de rentabilité. Et on a tendance à dire que du coup, les variétés locales, elles sont semées dans les coamiles. Donc les coamiles, ce sont des zones en pente, en montagne, avec un sol dur. Donc évidemment, les machines ne peuvent pas passer. Donc on est obligé de le semer à la coa, qui est le fer, d'où le nom coamiles. Mais finalement, selon les stratégies de chacun, et évidemment les histoires de chacun et la zone où on le cultive, on peut retrouver du maïs hybride dans l'Ain et des variétés créoles en plaine également.
Françoise Aubel, est-ce que cette technique, cette façon de faire, elle a voyagé avec le maïs au début aussi? Est-ce qu'on s'est dit, tiens, on va emporter les milpa, cette manière de planter
oui. Il y a deux choses. D'abord, le maïs est parti en Amérique du Nord, où ils ont parfaitement associé les trois sœurs, qui étaient le maïs, les haricots qui fournissent l'azote
dans le sol,
utile aux autres plantes, et puis les courges qui couvrent bien, qui ont des très grandes feuilles et qui couvrent bien. Et ça, ils l'ont parfaitement assimilé. Par contre, Colomb était à Cuba, Hispaniola, ça s'appelait Hispaniola à ce moment-là. Il n'y avait pas ça, probablement. Il est revenu sans tout ça. Cette culture très particulière des maïs, il a rapporté beaucoup de maïs, et tous ces marins ont rapporté beaucoup de choses, bien sûr aussi, et ils ont distribué partout, et ça a diffusé très très vite, mais ils n'ont rapporté rien du tout, ni de la culture, ni de la cuisine, ni de nixtamal, rien du tout.
Le goût du monde.
Les maïs, nous, on peut les manger en entrée, en boisson, en plat principal. Il y a beaucoup de boissons, des maïs fermentés ou pas fermentés. Le maïs, c'est un dessert, c'est un bonbon. Il est un gâteau au maïs, c'est accompagné d'une confiture de lait.
Kumbé de Rodrigo et Gabriela sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. On vient d'entendre Maria Eugenia qui me parle évidemment du maïs de son Mexique à elle, puisqu'elle est mexicaine également. Le maïs qui se décline à l'infini, il est incontournable. Maïs de Mis Amores, c'est l'exposition qui s'est ouverte à Paris, à l'Institut du Mexique. N'est-ce pas, dans le 3e arrondissement, dont vous êtes l'une des commissaires, Pauline Rameau. Vous êtes ethno-écologue et chercheur, avec nous également Françoise Aubel, ethno-biologiste, et bien sûr la chef mexicaine Mercedes Ahumada. Nous étions en pleine discussion autour de la milpa, et pendant qu'on écoutait la musique, Mercedes et Pauline ont dit, en fait ça veut dire beaucoup de choses, milpa. Et c'est peut-être de là aussi qu'il est un peu difficile de définir cette tradition de culture, ce savoir-faire. Et vous me disiez, Mercedes, quand vous êtes arrivée en France, vous étiez étonnée?
J'étais étonnée. Quand j'ai vu les champs de maïs, je me disais, mais les autres éléments, il manque les autres éléments. Et comment ils font pour que le maïs pousse? Et je me disais, non, mais ils ont, la plante est toute petite, c'est parce qu'il n'y a pas les éléments qui manquent. C'était ma logique. Et... après, bon, je suis même allée dans les champs pour récupérer les épines, pour travailler avec. Et c'était une belle découverte parce que j'ai vu que les espèces étaient complètement différentes et que les goûts changeaient complètement. Et à partir de là, j'ai cherché du maïs un peu partout en Europe pour arriver au goût du maïs criollo.
Vous avez dû être surprise d'ailleurs, parce qu'en arrivant en France, traditionnellement, la France est un pays de maïs, mais une consommation assez autre du maïs. Elle est, pendant longtemps, elle était considérée comme une céréale destinée à l'alimentation animale et pas tellement à l'alimentation humaine, quoi. Donc
toujours
aujourd'hui.
Bon, le maïs qu'on peut trouver ici, c'est sucré et c'est très bon pour le dessert, mais pas pour nos plats salés.
Alors dans ces mille pas, il y a également des mauvaises herbes, je crois. Mmh. Enfin, ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Mais il y a bien que nous, voilà, les qualités qu'on va exploiter, qu'on va cuisiner également.
Ça, j'en rêve en France. J'en rêve. Et j'adapte, je fais avec ce qu'on peut trouver ici. Et j'adapte avec les épinards, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est les qualités? Les qualités...
Ça, c'est le soupir de manque.
Mais oui, parce que quand je te disais tout à l'heure, c'est quand tu pars de la maison et tu vas à la milpa et tu vas avec ta famille pour... C'est un peu là, comme on fait ici, les champignons. Hein? Tu vas chercher tes champignons, mais bon, c'est des qualités. Et ça, tu prépares, tu fais juste de poêler et c'est extraordinaire. C'est...
Comme on pourrait, nous, enfin, en France, les asperges sauvages, si on devait faire une sorte de parallèle, de même d'ail des ours, de plantes sauvages qu'on
exactement
utilise. Qui... Et alors, justement, vous me parliez d'un champignon. Pauline, quel est ce champignon dont
le
je serais incapable?
Voilà. Le huitlacoche, oui, qui est du coup un champignon qui pousse au cœur du grain et qui déforme le grain et lui donne une saveur assez unique et incroyable. Donc, c'est pas très appétissant pour si on connaît pas, mais c'est vraiment délicieux.
À la vue, effectivement, c'est pas très appétissant parce qu'il est noir. Et je comprends pas trop parce que après les calamars, c'est noir aussi. C'est bien. Mais une fois que les gens goûtent le huitlacoche, c'est pour nous les Mexicains, c'est comme la truffe française. Et on les cherche partout. C'est extraordinaire, le huitlacoche, on peut préparer avec du maïs.
Du maïs, forcément. Donc là, le maïs, on a dit à plusieurs reprises déjà ce mot qui est un peu difficile à appréhender la première fois qu'on le voit, nixtamalisation, je crois. Parce que là, on arrive, donc on a l'épi de maïs, on va essayer d'en faire de la farine. Et de cette farine, on va faire donc les galettes qui sont très connues.
Oui.
Expliquez-moi. Bon,
mais en fait, on n'arrive pas à une farine. On va arriver à une pâte. Et ça, cette pâte s'appelle nixtamal. Comment on va faire? Bon, on va juste cuire nos grains de maïs dans une solution alcaline, dans la chaux. Après, on va laisser tremper pendant une nuit. Et le maïs, on va le goûter, le laver pour éliminer la pellicule qu'on trouve du maïs et qui permettra de faire une liaison et pour avoir une pâte. Et à partir de la pâte, on fait tout. On fait tout. On fait les tortillas, qui est l'élément principal, je pense. C'est pas un plat, mais il est tellement technique que je considère que c'est à la hauteur de n'importe quel plat du monde, que la tortilla. Parce que ça dépendra s'il est temps, s'il fait froid, s'il fait chaud, combien de temps on va laisser la chaud, combien de temps on va laisser tremper et combien d'eau et on va ajouter parce que c'est important la pâte, la texture de la pâte pour des différents plats. Et ça s'appelle nixtamal. Et voilà,
c'est... Et c'est un savoir-faire totalement mexicain. Nixtamal, il n'y a qu'au Mexique, oui. Pauline.
Bah, à ma connaissance, en tout cas, oui, c'est qu'au Mexique, parce que
oui, c'est
plus
c'est
au sud,
au
on
Mexique
la retrouve
et chez
pas.
Les Mayas.
C'est la région de Guatemala.
C'est-à-dire des gens qui ne mangent que du maïs. Et c'est pour ça qu'on le dit nixtamalise.
Parce qu'il y a un avantage, du coup.
Mais oui, lorsqu'on ne mange que du maïs et qu'on n'a pas nixtamalisé, bah, on risque la pélagre, qui est une maladie terrible, où on finit par mourir d'ailleurs.
Mmh.
Et en Europe, il y a eu beaucoup, beaucoup, et il y en a encore de la pélagre. En Afrique, de temps en temps, il y a de la pélagre encore. Ce sont des gens qui ne mangent que du maïs, absolument que ça.
Donc ils sont en carence ?
Ils sont en carence de vitamine
B6. D'accord, absolument. Donc il faut nixtamaliser.
Absolument.
Donc en fait, c'est un terme barbare pour un procédé qui est finalement assez simple. Si on vous écoute, on prend de l'eau, on prend de la chaux. On met son maïs dedans. Est-ce que c'est n'importe quel grain de maïs qu'on peut utiliser
on peut utiliser tout le grain de maïs. Et le goût est différent, parce que ça dépendra de la variété de maïs. Tout à l'heure, on parlait de cacao simple. Et le cacao simple, il y a un goût spécial pour la soupe qu'on connaît, pozole, le nom de pozole. Mais bon, on va arriver au même résultat. Une pâte de maïs.
D'accord, donc c'est une pâte de maïs.
Après, il faut la broyer, et voilà, du coup, on aura la pâte.
Quand est-ce qu'entre en ligne de compte le moulin ? Est-ce qu'on apporte sa pâte au moulin ou ça n'a rien à voir ?
En fait, une fois que le maïs est goûté, là, il peut passer au moulin, là maintenant, les nouvelles technologies. Mais sinon, à l'époque, on faisait à la main. Donc, c'est une pierre qui s'appelle métate.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a les gestes traditionnels, les outils traditionnels qui perdurent encore aujourd'hui. Ou c'est une idée que je me fais, Pauline Rameau ? Vous avez pu observer ?
En fait, le travail qu'on a mené à la fois de recherche et dans les collections, c'est exactement ça. C'est de travailler sur l'actuel Mexique. Sur le présent et de démontrer que les pratiques aussi bien agricoles que culinaires anciennes coexistent avec les pratiques plus modernes aujourd'hui, qu'on pourrait dire plus modernes. Oui, la presse à tortilla, le métate, le comal, on le retrouve partout. Le comal est d'ailleurs intégré dans la gazinière au Mexique.
C'est pratique. Et donc on va avoir du coup une farine déjà qu'on peut retrouver de manière industrielle, mais une farine qui sera nixtamalisée. Et du coup on en...
Il faut la réhydrater.
Et est-ce qu'on peut la trouver ailleurs qu'au Mexique ?
La farine, oui. Mais forcément, elle viendra du Mexique. Et la pâte, si on la fait nous-mêmes, oui. Et parce qu'une fois qu'on aura la pâte... La fermentation va commencer. Mais même fermenter, on va l'utiliser pour des boissons.
Et ça, c'est la base de tout. Une
de
fois
tout,
qu'on a ça, on est bon. Alors racontez-moi ces plats délicieux qu'on peut manger et fabriquer et du coup concevoir avec cette pâte.
Les tamales.
Oui, les tamales. Alors les tamales, ça c'est une découverte parce que vous l'avez dit, on utilise tout dans le maïs.
Exactement.
Donc ça veut dire qu'on va utiliser, comment on l'appelle l'enveloppe ?
Une feuille de maïs, totomostle s'appelle.
Voilà, et donc on va utiliser la feuille du maïs dans laquelle on va mettre de la pâte de maïs.
Et qu'on va cuire à la vapeur.
D'accord.
On peut faire un gâteau sucré, on peut faire un gâteau salé. Et dedans, on peut tout mettre, on a le droit de tout mettre. Faux des mers, viande, poulet, bœuf, porc, sauce. Et c'est le tamal dont on parle, de la milpa, parce qu'il y a tout. Le tamal, on peut trouver là le totomosle, que c'est la feuille de maïs, la pâte, le nixtamal, on pourra trouver de purée ou pâte aussi d'haricots, le piment, et puis à l'ailleurs des viandes. C'est le dernier élément, non, mais c'est le tamal, c'est un plat métis, parce qu'on va trouver le gras ou le sandwich de porc que les Espagnols sont ramenés au Mexique.
On t'apporte au Mexique. Mais en Afrique aussi, en fait, il y a des préparations. Il y a plein de nombreux pays, en fait, qui utilisent le maïs. D'ailleurs, où le maïs est devenu l'une des céréales prépondérantes, au détriment parfois des céréales traditionnelles. Je crois qu'on peut dire en Afrique, notamment, au détriment du sorgho et du mil, peut-être, qui étaient les céréales françoises.
En Afrique de l'Ouest, oui, ils ont intégré le maïs. Ils ont quand même conservé le sorgho et le mil. Parce que le maïs demande beaucoup d'eau, et dans l'Afrique subsaharienne, il n'y a peut-être pas toujours autant d'eau que pour le sorgho. Il n'a pas besoin d'eau, le mil un petit peu, mais beaucoup moins que le maïs. Donc c'est toujours en complément.
D'accord.
De même en Afrique centrale, ils ont du maïs également, mais c'est toujours complémentaire avec le manioc, qui est aussi américain.
Évidemment. Et on peut s'en réjouir d'ailleurs.
Oui.
Autant conserver les céréales traditionnelles. Absolument, en tout cas, j'ai appris qu'on faisait bouillir également le maïs. Au préalable, le maïs devient un incontournable. Donc sur la côte ouest, on le disait, notamment au Burkina, d'où nous appelle Aminata Traoré. Elle est à Bobo du Lasso, à Wézinville, très précisément.
Le maïs est beaucoup prisé en Afrique, surtout au Burkina Faso. Les mets sont diverses et ça concerne les plats de résistance et les boissons aussi. On peut faire du taux. Il y a différentes sortes de taux aussi avec le maïs. Il y a taux sucré, taux akasa, il y a donkoumou, il y a les taux gras aussi. Le taux, c'est un plat très facile à préparer. Il suffit de bouillir seulement l'eau et puis faire la bouillie et puis mélanger avec la farine. On met doucement la farine jusqu'à ce que ça devienne lourd. L'épaisseur, là, dépend de chaque ethnie. Il y a des ethnies qui veulent ça vraiment lourd, d'autres léger.
C'est une purée, on est d'accord, à faite avec une farine de maïs. Votre préférée, vous aimez la manger comment? Et est-ce que vous la mangiez quand vous étiez enfant?
En tout cas, on s'est levé, on a trouvé les parents faire ça jusqu'à aujourd'hui. On n'arrive pas à s'en passer. Si on commence à manger d'autres plats une semaine là, bon, on a envie de le manger. Hein. C'est devenu nos plats préférés sans qu'on s'en rende compte. Mais on a constaté que les jeunes d'aujourd'hui n'aiment plus le tout. Les nouvelles générations, ils trouvent que bon, c'est archaïque, que c'est pas bon, etc., etc.
Et mais ils mangent du maïs quand même, par exemple? Est-ce qu'ils vont manger du pop-corn ou du maïs en épi?
Bien sûr. Il y a le maïs frais qu'on peut griller. Il y a le maïs quand c'est un peu sec là. On peut le bouillir plutôt. En tout cas, c'est très bon. On peut utiliser aussi le maïs pour faire de la bouillie. De la bouillie, le maïs concassé ou bien en farine.
Est-ce qu'on fait des foufous de maïs?
Oui, oui. Hein, c'est ça, on appelle ça donkoumou. Mais ça, c'est un peu importé, quoi. C'est surtout les Togolais, les pays côtiers. Qui aime ça.
Je crois que vous avez une spécialité. Il faut nous parler du jus.
Bon, ma spécialité, c'est jus de maïs. Je peux dire que je suis burkinabé béninois parce que mon mari est béninois. Donc, de temps en temps, je fais le taux akasa, qui est le taux des pays côtiers. Donc, en faisant ce taux-là, on fait mouiller le maïs pendant 2 jours et on la fait moudre fin. Et puis, on laisse se reposer. Ce qui est en bas, c'est ce que nous utilisons pour faire le taux akasa. Et l'eau qui est en dessus, c'est ce qu'on peut en tout cas récupérer pour faire le jus de maïs. Et il suffit seulement de bien faire pasteuriser et sucrer et maintenant aromatiser à son goût. On peut mettre les arômes naturels comme l'ananas, comme la menthe, comme la citronnelle. Le sucre-là est beaucoup prisé en Afrique. On peut le boire simplement sans sucre parce que l'eau-là est déjà un peu sucrée.
Oui, le goût est sucré déjà.
Le goût. Or, l'ananas aussi est sucré. Donc, on va sentir un peu de sucre, mais ce n'est pas trop. C'est mieux naturel parce que vraiment, il y a trop de maladies. Surtout au Burkina, le diabète est en train de prendre du terrain. Donc, il vaut mieux qu'on se passe du sucre pour préserver sa santé.
On a le goût en bouche, c'est meilleur et c'est meilleur pour la santé.
C'est ça, c'est ça. Il suffit de s'y habituer seulement. L'akasa, ça, c'est une autre manière de faire le toast, tout simplement.
Ça doit être délicat, en fait, un peu moins sucré.
Oui, c'est bon même. On peut faire ça léger aussi. Et puis, avec de jolis moules, on peut faire des dessins. C'est très beau, quoi. C'est très bon. Surtout avec la sauce feuille. C'est du bon, quoi.
La sauce feuille.
Quand vous allez venir au Burkina, je vais en faire pour vous.
Un taux à cassa sauce feuille. C'est noté.
Ouais, sauce feuille. OK.
Merci beaucoup, Aminata. Aminata Traoré, donc, qui m'appelle de Bobo du Lasso. En fait, c'est un collègue qui m'a dit la larme à l'œil et est très ému en pensant au taux. Il est en manque de taux. Il est burkinabé aussi. Et donc, il était en grand manque de taux. Il m'a dit, tiens, on va appeler Aminata et elle va te raconter un petit peu cette recette. Le maïs, François Zobel, racontez-nous un petit peu, comment est-ce qu'il a conquis le monde?
Dès 1493, le deuxième voyage de Christophe Colomb, ils ont rapporté beaucoup de maïs, qui est diffusé évidemment, parce que tous les marins, ce sont des paysans évidemment. Donc ils ont planté ça d'abord en Andalousie et puis ensuite dans tout le reste de l'Espagne. Et il a toujours été extrêmement attractif par la grosseur de ses grains.
En Afrique de l'Est, on l'a beaucoup retrouvé également, le maïs. Comment est-ce qu'il a voyagé?
Alors, le maïs, en Afrique de l'Est, oui, absolument. Au XVIe siècle, il était partout. Il était dans toute la Méditerranée, en Égypte, au Yémen, jusqu'au Pakistan occidental. Donc vraiment, il a été absolument partout. À tel point qu'on l'appelait d'ailleurs, en Europe, on l'appelait le blé turc. Et il y a eu des tas de noms. En Italie du Nord, il a pris le nom du sorgho, qui s'appelait Meliga. Et quand c'était le sorgho s'appelait Meliga, à ce moment-là, le maïs s'appelait Meligone, c'est-à-dire le gros Meliga. Quand c'était le maïs qui s'appelait Meliga, c'était le sorgho s'appelait Meligetta,
le petit.
Voilà. Et puis, chez nous, alors il a pris le nom du millet. En France, il a pris le nom du millet.
Donc initialement
Millio.
Et on le retrouve dans les spécialités culinaires aussi.
Absolument.
Autour de la Méditerranée.
Absolument. Alors, en Italie du Nord, on faisait de la polenta, c'est-à-dire des bouillies. Les Européens ont tous fait des bouillies plus ou moins liquides, plus ou moins sèches. Sèches, ça faisait des gâteaux. Et liquides, ça faisait des bouillies. Et on a encore en France, là, des gaudes de Bressane, qui sont faits justement avec du maïs non mûr, c'est-à-dire un maïs beaucoup plus riche. Le maïs, quand il n'est pas mûr, il est beaucoup plus riche.
Et gustativement, il est intéressant.
Et c'est tout à fait différent.
C'est tout à fait différent. C'est les
atolès. Atolès, c'est un boisson qu'on utilise dans des autres cultures, l'almidon de maïs, mais au Mexique, dans les civilisations anciennes, et même maintenant, on utilise le maïs entier pour épaissir. Et donc, du coup, c'est un boisson. Froid, chaud, après si c'est froid, et ça peut être fermenté.
Multiples possibilités. Il a conquis l'Asie également. Les États-Unis, on sait, parce qu'il est arrivé.
Et au Canada, on l'appelle le blé indien.
En Asie?
En Asie, il est arrivé en 1496 en Indonésie. Très, très tôt, ce sont les Portugais l'ont apporté tout de suite. Et de là, il a diffusé. En Chine, on trouve dans un texte de savant sur le livre des plantes de Li Shengzhen, en 1556, il est noté. Et il y a un beau dessin du maïs également.
Et on l'utilise aujourd'hui encore en Asie,
On l'utilise, oui, absolument. Toutes les populations montagnardes utilisent le maïs. Mais ils ont des maïs différents, parce que le maïs a muté. Ce sont de vieilles variétés, et le maïs a muté énormément. Et c'est intéressant parce qu'il est devenu gluant. Et par exemple, les sociétés de Chine du Sud et les Hmong, qui sont venus de Chine du Sud et qui sont à Laos, ont du maïs gluant, comme le riz gluant. Et c'est de ce maïs gluant, d'ailleurs, qu'on a sorti le glucose. Le fameux glucose qui est tout à fait bon marché à l'heure actuelle, qui rend le sucre très très bon marché. On en sort également du blé, mais du maïs également.
D'accord. Voilà.
Le goût du monde. Clémence de la vie.
La milpa de Valerio se quema con el sol y sin remedio, y alista la cosecha para levantarse. No hay quien empuñe os ni el machete, en la cárcel de la huehuete está encerrado Valerio. Federica y las criaturas lloran con amargura, sufren por las carencias mientras se muere la siembra. Valerio, que le gusta la Rosita, que es la hija del alcalde, que lo agarran cortejando, que lo meten a la cárcel. Valerio, que le gusta la Rosita, que es la hija del alcalde, que lo agarran cortejando, que lo meten a la cárcel.
La milpa de Valerio, de Guadeloupe Trigo, sur RFI. Vous écoutez le goût du monde, nous sommes dans les champs de maïs, céréales essentielles, l'une des plus consommées au monde, avec la chef mexicaine Mercedes Ahumada, l'ethnologue Françoise Aubel, ethnologue et ethnobiologiste, et Pauline Rameau, ethno-écologue, chercheur au Musée de l'Homme. Nous parlons bien sûr de cette milpa et de ce maïs depuis le début de l'émission. Et il est évident qu'il y a un point primordial qu'on doit aborder, c'est celui de la semence et du grain de maïs. Et on voudrait savoir, évidemment, il y a énormément de variétés de maïs, mais est-ce qu'il existe? Comment on fait pour planter aujourd'hui le maïs? Et quel est ce maïs que l'on plante, Pauline Rameau?
Ce qui fait la particularité du Mexique, c'est que les paysans reproduisent leurs propres semences. Enfin, comme partout dans le monde quasiment, on ne peut pas commercialiser des semences qui ne sont pas inscrites au catalogue et qui en général ne sont pas hybrides. Et cette culture du maïs est tellement forte au Mexique que la reproduction des semences natives ou créoles sont autorisées et c'est ce qui fait toute la richesse du Mexique finalement.
Cependant, quand on plante, j'ai cru comprendre que on plante donc au moment de la saison des pluies, je crois. C'est en juin, il me semble. Et donc, on va parfois confondre. Du coup, il y a des grains hybrides qui vont se trouver mélangés avec des grains natifs, si on peut les appeler comme ça. Est-ce qu'il y a terme pourrait créer un problème, une difficulté en tout cas? Est-ce que c'est quelque chose qu'on cherche justement à éviter?
Oui, tout à fait. C'est de par la proximité des cultures. Si on sème une parcelle de maïs hybride et juste à côté une parcelle de maïs créole ou natif, toute la question est là, de par la reproduction du maïs, il va y avoir un croisement entre les deux. Donc finalement, on va se retrouver avec des épis de maïs qui vont contenir des grains à la fois hybrides et des grains créoles. Et c'est là le problème. Après, on peut resélectionner et prendre chaque épi et séparer les semences. Mais c'est forcément, d'un point de vue génétique, il y a un croisement qui est fait et qui est inévitable.
Dans la milpa de votre enfance, Mercedes, justement, est-ce que vous plantiez, vous participiez à ces semences ou à ce tri en tout cas? Comment ça se passait?
Effectivement, à la récolte, tous les épines des maïs arrivaient à la maison. On avait des énormes pièces dédiées à ça dans la maison, c'était pas dehors, et tout le monde participait à sélectionner les grains. Les adultes sélectionnaient les grains, c'est pas un travail, hein. C'était pour contribuer ou pour être en famille, et on égrenait les épines. Et ces grains étaient dédiés pour la prochaine saison. Et après, une fois les grains ont été sélectionnés, ben on continuait nos travaux pour la consommation et pour la vente.
Et la transformation, et la du transformation. Coup, des grains qui étaient consommés. On vous en parlait quand vous étiez enfant, de la préservation justement de ces grains
créoles? Non, on parle pas. C'est comme ça, c'est notre culture. Et c'est à partir de la mondialisation qu'on a commencé à perdre le terrain. Et puis, les grains hybrides sont arrivés. Et ben forcément, la sélection des grains a quasiment disparu. Ça, c'est un sujet qui nous touche énormément. Parce que c'est la fin de notre maïs. Et on dit les Mexicains, sin maïs no hay país. Ça veut dire que notre pays, c'est le maïs. S'il n'existe pas, notre culture va disparaître. Et c'est assez grave.
Est-ce qu'il y a justement des mouvements de mobilisation de paysans qui s'emploient à préserver ce patrimoine et à le défendre? Pauline, vous dites oui de la tête.
Donc... Oui. Ouais, énormément, finalement. Les Mexicains sont très attachés à leurs semences. Notamment, il y a énormément de mouvements contre les OGM qui ne sont pas arrivés au Mexique. Mais bon, forcément, ils essayent. Donc, il y a énormément de mouvements qui luttent pour que les OGM n'arrivent pas au Mexique pour le même problème de contamination. Et après, il y a énormément de mouvements de la société civile pour la conservation des semences natives et la conservation au-delà des pratiques culinaires et même des pratiques, des coutumes générales en fait des Mexicains.
Des pratiques culinaires qui sont inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'était la gastronomie mexicaine est en soi inscrite au patrimoine. Pour vous, cette gastronomie, elle est indissociable évidemment du maïs, on l'a dit tout au long de cette émission. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on est dans une idée de préservation?
Justement, c'est pour ça qu'on essaye de continuer à travailler et de faire connaître nos habitudes. Parce que les traditions culinaires au Mexique, c'est ce que vous venez de dire, justement comme patrimoine. Et au Mexique, à tous les niveaux sociaux, on mange du maïs. Tous les Mexicains, tous les jours, pendant 80%, les trois repas. Et effectivement, là maintenant, un autre événement aussi inscrit au patrimoine, c'est la fête des morts. Et c'est très lié, parce que c'est le maïs qui a fait que notre gastronomie soit inscrite au patrimoine. Tellement il y a des techniques anciennes et ancestrales, et qu'on utilise jusqu'à maintenant. Et il y a un rituel très important, je viens de le dire, la fête des morts. Et donc, toute notre culture, nos habitudes tournent autour de ces grains et il faut les préserver. Donc il y a effectivement des associations ou des civils qui sont en train de promouvoir les maïs pour conserver les maïs criollos. Je pense c'est ce qui est assez étonnant, que je ne me rendais pas compte quand j'étais petite, c'était que c'était nous qui faisons la culture des maïs. C'est pas comme le piment, par exemple, qui a des agents, qui ont un rôle important pour la reproduction. C'était nous. Et ça, c'est, on est en train de le perdre.
D'accord, il n'y a pas d'intermédiaire. Exactement. Vous êtes les titulaires de vos grains.
Et c'est pour cela qu'on dit qu'on est les hommes du maïs. Parce qu'effectivement, on ne s'en rend pas compte, c'est naturel. C'est après, quand on est dans, dehors. Et tout à l'heure, je disais, quand je suis arrivée en Europe, j'étais étonnée. Parce que je ne comprenais pas au début comment les gens pouvaient développer les cultures s'il n'y avait pas ces liens très importants comme les rituels.
Et d'ailleurs, il y a plein d'instruments qui sont ritualisés. Alors, vous êtes venue avec les bras chargés de choses. Est-ce que vous pourriez juste m'expliquer, Pauline, quel est l'appareil que vous avez apporté? Il y a aussi des tissus brodés. Vous pourriez me raconter un petit peu à quoi sert? Parce que chaque chose a une utilité, en fait.
Oui. J'ai essayé de ramener un élément, enfin, tout ce dont on a besoin pour la tortilla, donc, qui est le plus simple au final. Le desgranador, donc, pour enlever les grains du maïs. Donc, c'est le très grand,
donc
avec
c'est un
toutes les rafles
avec tout...
de maïs concentrées qui permettent d'enlever les grains. Une fois qu'on l'a égrené, on va le cuire à la chaux. Du coup, Mercedes a ramené la chaux. Et puis après ça, on le moue. Donc au moulin, on n'a pas ramené de moulin. Le métaté encore moins parce qu'il est très très lourd. Et après, on le passe à la presse qui est en bois.
Comme un livre qui se replie, mais c'est en bois.
Deux planches qui vont aplatir.
Qui vont aplatir.
Et former la tortilla qui est du coup un cercle plat de masa, donc de nixtamal. Et qu'on passe au comal qui est donc une planche ici de métal, mais qui peut être aussi de céramique.
De terre également.
Sur laquelle on cuit la tortilla, et une fois qu'elle est cuite, pour la garder chaude, on le met dans le tortillero. Et donc, Mercedes en a ramené un en palme, c'est ça?
C'est la palme.
Non? Donc, assez épais. Mais sinon, on peut avoir l'autre tortillero qui est en tissu et qu'on met sur la table pour garder au chaud
les tortillas
pendant tout le repas.
Bon, donc tortilla le matin, dès le réveil. Si on devait faire comme ça une journée au goût du maïs.
Une journée au goût du maïs pour les personnes qui travaillent physiquement. Parce que aussi, ça donne l'énergie.
Oui, c'est très nourrissant.
Exactement, c'est très nourrissant. Donc le matin, du maïs, le boisson que c'est anatolé. On peut aussi mettre du chocolat, mais le cacao, c'est pas chocolat, le cacao, de l'eau, ou du lait maintenant, mais bon, avant c'était de l'eau, et un tamal. Ça, c'est le petit déjeuner. Un tamal, et que c'est du maïs dans une feuille de maïs. Après, pour le repas, c'est une entrée. Bon, nous, on ne parle pas d'entrée, nous, on mange une soupe. Et si c'est la saison, bon, on va manger une soupe tomate, par exemple, avec du maïs tendre, ou accompagné d'une tortilla. Farci de huitlacoche, que c'est du maïs. Donc là, on a la tortilla nixtamalisée, plus le champignon de maïs. Et pour continuer, c'est les épines tendres, avec un peu de viande, de piment. Et pour finir, avec un gâteau de maïs. Et tout est accompagné de tortillas, tout le temps.
C'est ça, c'est mieux que le pain. C'est quand vous avez découvert cet art de vivre, parce que vous avez filmé, vous nous avez envoyé un film dont on a extrait donc la petite vente de tamales au tout début de l'émission. Quelle a été votre réaction et votre embrassement de cette culture?
Bah c'est vrai que oui, on peut apparenter la tortilla au pain, mais finalement c'est même plus fort que ça. Le lien à la tortilla, il est vraiment fort. Moi, je me rends compte sur le terrain quand. Les gens me disent, mais tu es française, c'est génial, la France, j'irai bien en France. Et quand je leur dis qu'il n'y a pas de tortilla en France, ils y réfléchissent à deux fois quand même. Donc, enfin, c'est quand même assez unique. Je veux dire, nous, on se dit pas, bah, il n'y a pas de pain, j'y vais pas, quoi. Et vraiment, eux, ils y réfléchissent à deux fois. Donc, c'est vraiment différent.
Oui. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez à une heure que vous préférez?
De tortilla?
Oui.
À toutes les heures. Mais faites à la main, quoi. Surtout.
La tortilla el pastor, c'est une des plus connues, je crois, non?
Le pastor, c'est... Avec la tortilla, tu fais un taco. Le taco, c'est... On peut remplir avec tout. Légumes, viande, poisson, tout. Et le pastor, c'est assez récent. C'est la viande, c'est du porc grillé avec une marinade de piment ou achiote, que c'est le roku. Et voilà, les agrumes.
D'accord. C'est facile à faire?
Non.
Ah, donc vous nous donnerez la recette quand même, oui, qu'on puisse y essayer.
Volontiers. C'est assez technique. On fait même des concours, voir qui c'est le taquero qui coupe plus et la viande de façon plus artistique.
La plus artistique. Oui. Quand on est enfant, on apprend à faire des tortillas.
Oui.
À quel âge?
Bon, moi j'ai appris à, je sais pas, 7-8 ans.
C'est comme un passage de rite, on devient un peu plus grand quand on sait faire la tortilla.
C'est essentiel.
Les garçons c'est essentiel. Aussi
non.
On dit qu'on ne peut pas se marier sans savoir faire les tortillas.
Exactement. D'accord. Et on peut faire des tortillas, mais si elles ne sont pas bien faites, on ne peut pas se marier.
Ah, mm-hmm. D'accord. Ah, ouais. Donc on ne peut pas voyager. Pas se marier, donc il faut savoir faire. Donc j'apprendrai. C'est difficile, c'est vraiment une technique, il faut pouvoir agrandir la pâte.
C'est pas difficile. Mais ce n'est pas facile non plus.
D'accord. Quand on sait faire, ça va. Françoise, oui. La tortilla de votre cœur.
Alors, moi, je voulais ajouter une chose, c'est que la tortilla, ça sert de cuillère et de fourchette.
Exactement.
Absolument.
Et
on
d'assiette.
Mange avec les doigts.
Et l'assiette.
On mange assis, debout, à chaque
où,
coin de rue.
N'importe où. Et ça sert vraiment à manger. On mange dans la tortilla, toujours. Et c'est vraiment la base.
D'accord.
Et je disais que moi, j'ai lu beaucoup de livres de cuisine et j'étais frappée en comparant avec les autres livres de cuisine de France ou d'Espagne, etc. Le maïs arrive immédiatement. Et on ne parle que de ça pendant les 2 ou 3 premières pages. C'est tout à fait étonnant. C'est la vie totalement du Mexique. C'est extraordinaire.
Pour la petite histoire, quand je suis venue en France, il y avait quelqu'un qui m'accompagnait et qui travaillait avec moi. Et je l'aime beaucoup. Et il m'a dit, mais dis-moi comment tu vas faire. Est-ce que là-bas, il y a des tortillas? Et je lui ai dit, non, il n'y a pas de tortillas. Tu vas beaucoup souffrir. Il ne faut pas que tu partes. Et effectivement, quand j'étais dans l'avion, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est pour cela que j'ai fait tout ce que je fais pour pouvoir manger des tortillas, d'abord moi.
Merci beaucoup à toutes les trois pour ce voyage en terre de maïs et cette immersion mexicaine. Je suis sûre que chez vous, il y a des recettes, des toacasa de maïs en galette, des purées transmises de génération en génération que vous pourrez partager. Régalez-nous, nous partagerons à notre tour vos vidéos, vos photos. On est preneurs, 33 6 43 16 15 66 sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Cécile Benissi qui a réalisé et mis en onde cette émission. Vous pouvez la commenter, la podcaster à l'envie, évidemment. L'exposition, il ne faut pas la rater, Maïs de Mis Amores à l'Institut du Mexique à Paris. C'est jusqu'au 14 août prochain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je compte sur vous.